Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la diplomatie du Vatican. Le pape François a entamé ce week-end son 10e voyage à l'étranger, Cuba d'abord, États-Unis ensuite. L'Amérique est un continent qu'il connaît de l'intérieur. Le pape François est argentin, pays du cône sud de l'Amérique latine. Un continent dans son ensemble où les années de guerre froide et d'opposition entre communisme et capitalisme ont été très prégnantes. C'est dire combien François sait de quoi il parle quand il évoquera la nécessité de lancer des ponts entre deux mondes, Amérique latine et superpuissance américaine. Le rôle du Vatican dans le rapprochement entre les États-Unis et Cuba fait-il de lui un acteur diplomatique hors norme? Regard sur la stratégie du plus petit État du monde dans les relations internationales aujourd'hui avec nos invités par téléphone. François Mabille, politologue et enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lille et au CNRS, auteur de plusieurs ouvrages dont Les troupes du Vatican aux éditions Le Manuscrit et La longue transition du catholicisme aux éditions du Cygne. Bonjour.
Bonjour.
En studio avec moi, Annie Lacroix-Ris, historienne, également auteure de plusieurs ouvrages, dont Le Vatican, l'Europe et le Reich de la Première Guerre mondiale à la guerre froide, aux éditions Armand Collin. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Baptiste Noé, historien et écrivain, auteur de Géopolitique du Vatican, à paraître aux presses universitaires de France le 14 octobre prochain. Bonjour.
Bonjour.
Le rapprochement entre le régime de Fidel Castro et l'Église catholique, c'est un événement quand on sait les décennies de hostilité et la rupture totale intervenue dans les années 70, entérinée par le Parti communiste cubain. On est en Amérique latine dans un environnement très catholique, même si les églises évangéliques d'obédience, donc protestantes, y ont une assise de plus en plus prégnante. François Mabille, quelle est la profondeur géopolitique que l'on peut donner à ce rapprochement? Est-ce qu'on peut dire que le Saint-Siège a joué un rôle important, voire considérable?
Alors, un rôle important, il a joué un rôle indéniablement, et notamment à partir des années 2000, à partir de la nomination de Mgr Obetchou, qui était le nonce nommé par Benoît XVI, et qui a œuvré au rapprochement entre le régime et l'Église catholique. Et donc, d'une certaine manière, le Vatican a joué un rôle de médiateur, d'État tiers garant dans le rapprochement ou dans les prénégociations entre les États-Unis et Cuba. Cela étant, il me semble que c'est aujourd'hui plutôt un voyage qui est symbolique. Cuba ne représente tout de même pas un enjeu géopolitique considérable aujourd'hui. On tourne la page de la guerre froide. C'est important symboliquement pour Obama, pour le régime castriste et également pour l'Église catholique.
Jean-Baptiste Noé, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire François Mabille?
Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est une page qui s'était ouverte avec Jean 23, qui était intervenu dans les relations entre Kennedy et Khrouchtchev en 62 lors de la crise de Cuba, qui avait joué un rôle très important pour éviter l'affrontement direct entre les deux pays. Et il y a eu cette continuité, Jean-Paul II, Benoît XVI, qui a fait le premier voyage d'État à Cuba, et le pape François, et je suis d'accord, en fait, c'est une page qui se ferme. Maintenant, Cuba aura un rôle mineur.
Alors, voyage symbolique, j'aimerais tout de même qu'on s'arrête quelques instants sur Cuba. Cuba qui a été l'épicentre de la géopolitique du Vatican pendant plusieurs décennies. Même si le voyage est symbolique, il vient s'ajouter à deux autres précédentes visites papales. Résultat, en 17 ans, Cuba a reçu trois visites de pape, Annie Lacroix-Ris.
Cuba, bien entendu, parce que Cuba était un point important des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine, mais il faut évidemment remonter bien plus loin pour situer l'intérêt à la fois du Vatican et des États-Unis à l'égard de cette Amérique latine, Cuba ou pas, dans la mesure où l'Amérique latine est une zone très privilégiée d'investissement américain et où le Vatican, dans des régions entièrement catholiques, joue bien entendu sur le plan du contrôle des populations un rôle déterminant. De sorte par exemple que on a une visite extrêmement importante de Pacelli, futur Pie XII, lorsqu'il est secrétaire d'État en 1936, qui vient voir Roosevelt, notamment à cause des très fortes préoccupations des États-Unis à l'égard des transformations non pas alors à Cuba bien contrôlé, mais au Mexique. Et la question ne pose pas, parce qu'on a évoqué beaucoup la guerre froide et le conflit entre communisme et États-Unis, ou pays symbole du capitalisme, mais c'est plus profond que ça, je pense, l'Amérique latine. La question est celle du contrôle américain sur l'Amérique latine, en particulier de la protection des investissements. Et dans ce cadre, l'ensemble de l'Amérique latine a joué un rôle déterminant, les États-Unis faisant systématiquement appel au Vatican pour obtenir une garantie, pour obtenir une stabilisation. Et en particulier, on l'imagine, ça a eu un rôle très très important en matière de contrôle de ce qu'on a appelé la théologie de la libération. Et les enjeux ne datent pas de Benoît XVI, ni de Jean-Paul II, bien que, évidemment, ça ait pris un grand développement à cet égard. Et de ce point, enfin, d'un point de vue général, d'ailleurs, vous avez vous-même souligné tout à l'heure l'importance de l'Argentine. L'Argentine est un point décisif, sachant, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, que l'Argentine a été le pays clé de ce qu'on appelle les rat lines, des filières d'exfiltration des criminels de guerre, et ce, par négociation à partir de 1942. Et de ce point de vue, le pape Bergoglio, le pape François, est un personnage central, d'autant plus central d'ailleurs que il a joué en Argentine, on ne sait pas tellement en France, mais il a joué en Argentine un rôle absolument déterminant, et sa nomination a donné lieu à beaucoup de débats, d'ailleurs, qui se poursuivent en Argentine.
Alors ça, c'est l'historienne Annie Lacroix-Riss qui parle et qui, de fait, je le signalais en introduction à travers l'ouvrage Le Vatican, l'Europe et le Reich, beaucoup de connaissances. Ce sera peut-être d'ailleurs l'objet d'une autre émission de géopolitique. En tout cas, vous nous apportez l'éclairage intéressant là-dessus. Je rebondis... Et François Mabille, je me tourne vers vous sur ce que disait, ce qu'évoquait Annie Lacroix-Riss quant au contrôle américain sur l'Amérique latine. Et ce que je comprends, et peut-être ça se discute et c'est un objet de débat, donc le rôle de vecteur peut-être du Vatican. En tout cas, la question de l'embargo et de la levée de l'embargo américain sur Cuba est un sujet en discussion, mais dont on pense qu'il ne sera pas fait mention par le pape François durant ce voyage. François Mabille.
Oui, moi je me retrouve tout à fait dans ce que disait Mme Lacroix-Riss sur le plan historique. Alors, je mettrai simplement un petit bémol en disant, il faut bien qu'on soit d'accord sur le sujet. Le sujet, c'est le Vatican. Si on élargit à l'Église catholique, bien évidemment, il y a d'autres courants, il y a un pluralisme interne, alors contesté parfois d'ailleurs par le centre romain, mais si on évoque l'Argentine ou les pays latino-américains, il y a eu quantité de mouvements catholiques, je pense par exemple au CCFD, au réseau de la CITSE, etc., qui contraient la diplomatie vaticane. Cela étant, si on parle effectivement de la diplomatie vaticane, Mme Lacroix-Riss a tout à fait raison, me semble-t-il, de dire qu'il y a un accord, qui est pratiquement un accord qui court tout le XXe siècle, pour que l'Église catholique, sa hiérarchie, disons la hiérarchie catholique, avec la bénédiction du Vatican, soit proche d'un certain nombre de régimes favorables aux États-Unis. Sur la période Jean-Paul II, on a un ouvrage de deux journalistes, hein, Bernstein et Politi, intitulé « Sa sainteté », qui montre bien le jeu de donnant-donnant, soutien en Pologne et dans les pays de l'Est des États-Unis auprès du Vatican, et en contrepartie, effectivement, muselage des mouvements et des différentes théologies de la libération en Amérique latine, qui est d'ailleurs d'une certaine manière un jeu diplomatique qui a été un jeu de dupes, puisque ça n'a pas empêché les États-Unis d'avancer leur pion via les ONG néo-évangéliques. Mais il est certain qu'il y a eu ce rôle joué par le Vatican, effectivement.
Alors, j'aimerais poursuivre, après ça on passera à l'étape américaine. Est-ce que ce qui s'est passé dans le rapprochement à la fois entre Cuba et le Vatican, et le rapprochement entre Cuba et Washington, est-ce qu'on peut comparer cette action à l'action de Jean-Paul II avec la Pologne et au-delà la répercussion sur l'Empire soviétique? Je veux dire par là, est-ce que ce rapprochement de l'Église catholique avec Cuba, pays communiste, peut avoir un effet papillon sur les autres pays au régime semblable? Je pense bien sûr à la Chine, mais là c'est un gros morceau, et pardon pour cette expression un peu triviale. Il y a aussi la Corée du Nord, le Laos, le Vietnam, la Birmanie. Jean-Baptiste Noé.
Je crois pas. Je pense que Cuba est symbolique. C'était le symbole de la guerre froide. Maintenant, tout ça est fini. Pour la question du communisme en Asie, pour moi, ce qui prime d'abord, c'est l'aspect culturel. On l'a vu en Russie, la culture russe a primé sur le communisme. Il y a eu des affrontements entre Russie et Chine communiste. Le communisme passe au deuxième plan après la culture des pays. Et en Chine, le problème problème n'est pas tant le communisme que la culture chinoise et la volonté du gouvernement chinois de contrôler son pays, alors avec l'aide de l'idéologie communiste, mais même s'ils n'étaient pas communistes, il y aurait le même problème avec l'Église catholique qui est perçue comme étant non chinoise et comme intervenant dans les affaires de la Chine.
Annie Lacroix-Risse, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Oui, c'est-à-dire que j'ai une vision complètement différente. Je pense, comme vous, qu'il s'agit d'un rapprochement de même type ou d'une initiative qui doit en quelque sorte conforter la conversion de Cuba à l'économie de marché. Et de ce point de vue, c'est vrai que ça ressemble à l'affaire polonaise, à ceci près qu'on impute à Jean-Paul II une sorte de rôle initiateur qui est absolument erroné, puisque la conquête commune de la sphère d'influence soviétique ne date pas de lui, mais elle date de la constitution de la sphère d'influence soviétique, c'est-à-dire de mai 1945 et même d'avant. Et il est vrai que ça montre bien d'ailleurs le hiatus entre le symbole et la réalité. Mmh. On a imputé à Jean-Paul II dans les années 1980 quelque chose qui ne constitue que la fin d'un processus, c'est-à-dire d'un processus dont on voit tous les linéaments pendant la Deuxième Guerre mondiale et après 1945. Alors, si vous posez cette question, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que c'est en quelque sorte une offensive pour marquer une avance nette des États-Unis dans une Amérique latine au sein de laquelle tout de même ils rencontrent des difficultés. Et non pas pour des raisons essentiellement idéologiques, comme vient de dire Monsieur Noé, mais pour des raisons très matérielles. C'est-à-dire qu'on est là dans une zone absolument décisive pour les États-Unis, non pas Cuba seul, mais évidemment, si on devait parler de Cuba d'ailleurs, quel symbole que Cuba, qui a été vraiment la chose des États-Unis à tous égards avant les événements de la fin des années 1950. Et donc, les États-Unis se trouvent en difficulté dans cette zone et il y a manifestement l'idée qu'on pourra reconquérir ensemble. Alors, on évoque l'effet papillon. Alors, l'effet papillon, là encore, la perspective immédiate fausse tout. L'effort sur la Chine, c'est un effort qui ne date absolument pas d'aujourd'hui. Par exemple, les archives de renseignement sont très très riches sur l'effort commun américano-vatican à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour essayer de maintenir la Chine dans le camp des États-Unis, je dirais dans le camp économique des États-Unis, et ça continue ensuite. Donc l'effort du Vatican en Chine est un effort continu, bien entendu faible vu la masse et vu la structure culturelle de la Chine, exactement comme il l'avait été d'ailleurs longtemps en Union soviétique, mais il ne s'agirait pas d'une sorte d'effet papillon qui viendrait aujourd'hui de à partir de 2015. Et je pense qu'il ne s'agit pas de culture, essentiellement, bien sûr, il s'agit de culture. Il s'agit, là encore, de contrôle.
Alors, le Vatican au secours des États-Unis, c'est ce que j'ai compris de ce que disait Annie Lacroix-Risse à l'instant. Et justement, j'aimerais qu'on se pose un peu sur l'étape américaine. Pour mémoire, les États-Unis, ce sont 62 millions de catholiques, un quart à peu près de la population américaine. Le pape va y trouver une église profondément ébranlé par les scandales de pédophilie, et les États-Unis ne sont pas les seuls, un sujet sur lequel le pape François s'est montré inflexible. Les deux moments attendus, ce seront les discours du pape, alors en anglais devant le Congrès à Washington et en espagnol, sa langue natale puisqu'il est argentin, devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Il y aura aussi à Ground Zero une cérémonie interreligieuse contre le terrorisme et à la mémoire des victimes des attentats en septembre 2001. Les États-Unis, pays d'essence protestante où la religion catholique encore minoritaire pourrait devenir majoritaire du fait de l'augmentation démographique des latinos. On l'évoquait, il y a une relation entre les États-Unis et le Vatican qui est tout à fait particulière et que je souhaiterais là aussi que vous nous expliquiez. Je me tourne vers vous, François Mabille, aux questions financières. J'ai appris en préparant cette émission que la plus grosse part des fonds que reçoit le Vatican proviennent des États-Unis de manière très substantielle et suivie loin derrière par l'Allemagne. En ce qui concerne les États-Unis, quelles conséquences cela a-t-il sur la politique vaticane ? Alors, est-ce que finalement, c'est un échange d'intérêts bien compris entre les deux, ce que semblait dire Annie Lacroix-Risse ? François Mabille.
Alors, je pense que ça ne se réduit pas à cette dimension, mais bien évidemment, ça compte. Les États-Unis et l'Allemagne sont les deux pays les plus forts contributeurs, pour des raisons d'ailleurs qui sont structurellement, je dirais, différentes. Il n'empêche que, bien évidemment, ça a un impact. Si je regarde le sujet, le mien, celui des ONG catholiques, on voit bien qu'ont droit à la parole les ONG catholiques qui sont les plus fortes, et notamment les plus fortes financièrement, ce qui leur donne le plus de pouvoir d'action, et que, bien évidemment, lorsqu'il y a des structures, des coordinations internationales, eh bien, le poids de l'Allemagne et de plus en plus, me semble-t-il, ces 15 dernières années des États-Unis compte beaucoup. Ça signifie qu'il y a, en dépit du pluralisme catholique américain, qu'il peut y avoir des relais d'influence qui se jouent par des responsables catholiques. Madame Lacroix-Rise a évoqué tout à l'heure le rôle de l'Argentine dans l'exfiltration de catholiques nazis. On connaît très bien le rôle, par exemple, qu'a pu jouer le cardinal Spellman pendant la Seconde Guerre mondiale et à la fin du conflit. Donc il peut y avoir ce type d'intérêt, des cardinaux ou des évêques qui jouent le rôle de go-between, ou je dirais qu'ils sont simplement emprunts de leur propre culture américaine, hein, question des identités. Vous êtes catholique et américain, est-ce que vous êtes d'abord américain ou d'abord catholique, comment les deux s'articulent? Et bien évidemment, ceci a un rôle. Et ça se retrouve également, bien sûr, dans d'éventuelles nominations au sein de la Curie romaine.
Alors, je ne sais pas qui veut réagir. Jean-Baptiste Noé.
Il y a une question qui est très intéressante sur les États-Unis où c'est assez ambivalent parce que, pour faire simple, vous avez eu effectivement une lutte de l'Église contre la théologie de la libération qui était la diffusion d'idées communistes en Amérique latine, même si beaucoup de chrétiens soutenaient cette théologie. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que aujourd'hui, la théologie de la libération se transforme en théologie de la prospérité, qui est en fait l'avancée des mouvements évangéliques et la perte de populations catholiques qui vont dans le camp d'en face, si on peut dire, donc dans le camp évangélique. Et alors, ces mouvements sont soutenus par les États-Unis. Donc, vous avez une concurrence religieuse ou paroissiale entre les États-Unis et l'Église au niveau des pays d'Amérique latine. Là, une concurrence où les deux sont un peu en opposition. Au niveau américain, il va y avoir dans les prochaines décennies, enfin la prochaine génération, donc dans les 20 ans à venir, une évolution qui va être, à mon avis, cruciale pour les États-Unis, parce que se pose la question de l'unité du pays. Or, les différents mouvements protestants sont très marqués par des différences nationales. C'est-à-dire que vous avez l'église des Coréens protestants, l'église des Noirs américains protestants, donc il y a ces divisions qui se font, et il n'y a pas vraiment de dialogue commun entre ces églises. Et finalement, ce qui pourra peut-être assurer l'unité des États-Unis dans la génération qui vient, ça va être le catholicisme qui, étant religion universelle, c'est le sens du mot catholique en grec, universel, peut unir ces différents peuples, c'est-à-dire des descendants d'Italiens, d'Irlandais, d'Hispaniques. Dans les Hispaniques, vous avez les Mexicains, vous avez les Cubains, les Portoricains, qui ont beaucoup de différences entre eux, mais qui se retrouvent dans le catholicisme et qui pourront donc donner une unité aux États-Unis d'Amérique, et qui pourront peut-être rester unis grâce au catholicisme, alors que pendant longtemps, le catholicisme a été perçu comme étant un facteur plutôt dissolvant dans l'unité américaine. Et là, il y a, à mon avis, un retournement culturel qui sera très intéressant d'étudier, parce que c'est une partie de l'avenir des États-Unis qui est en train de se jouer.
Très rapidement, Annie Lacroix-Rise.
Je suis tout à fait sur le terrain de Monsieur Mabi et sur le vôtre d'ailleurs, c'est-à-dire que le rôle des États-Unis et le rôle de l'Allemagne sont considérables, non pas depuis une période récente, mais en gros, respectivement, pour l'Allemagne et les États-Unis depuis la fin du 19e siècle et disons la Première Guerre mondiale, et que le fait qu'ils soient partiellement catholiques n'a aucune importance dans le débat. Il se trouve que lorsque c'était l'Empire d'Autriche-Hongrie qui était maître au Vatican, bien entendu, on avait une puissance exclusivement catholique. Mais il y a un caractère commun d'ailleurs entre le caractère des deux églises maîtresses depuis le 20e siècle du Vatican. C'est que elles sont richissimes et finalement très autonomes, et elles sont en mesure, par les relations qu'elles entretiennent avec leur État, elles sont en mesure de peser sur le Vatican de façon extrêmement forte, au point que un de nos spécialistes au Vatican, au Quai d'Orsay du Vatican, faisait observer que la France ferait bien de s'inspirer de la méthode prussienne qui régnait dans les relations entre Vatican et Allemagne, parce que la France n'obtenait rien et l'Allemagne tout.
Alors, Annie Lacroix-Rise, je vous propose de poursuivre dans la deuxième partie de l'émission Géopolitique. Nous retrouvons nos invités François Mabi, Annie Lacroix-Rise et Jean-Baptiste Noé dans quelques instants. À tout de suite. tout.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la diplomatie du Vatican. Nous retrouvons nos invités par téléphone. François Mabille, politologue, enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lille et au CNRS, auteur de plusieurs ouvrages dont Les troupes du Vatican aux éditions Le Manuscrit et La longue transition du catholicisme aux éditions du Cygne. Annie Lacroix-Risse, historienne, également auteur de plusieurs ouvrages dont Le Vatican, l'Europe et le Reich de la Première Guerre mondiale à la Guerre froide aux éditions Armand Collin. Et Jean-Baptiste Noé, historien et écrivain, auteur de Géopolitique du Vatican, apparaître aux presses universitaires de France le 14 octobre prochain. Annie Lacroix-Risse, vous souhaitiez revenir sur le poids financier des États-Unis et de l'Allemagne sur le Vatican.
Ça a vraiment dominé tout le XXe siècle et M. Mabille a tout à l'heure parlé du rôle de Spellman. C'est quelqu'un qui émissaire d'abord de Chicago et puis de la grande association catholique intégriste Les Chevaliers de Colomb est considéré dès 1925 au Vatican comme le distributeur des dollars. Et vous évoquiez tout à l'heure les postes importants à la curie et les postes cardinalistes. Les archives historiques montrent à quel point ce poids financier est déterminant sur le poids dans l'Église et par conséquent sur le poids électoral de chacun et dans les nominations non seulement aux postes importants mais en premier lieu évidemment aux postes pontificales. Et à cet égard, je pense qu'il est bon, indépendamment de l'aspect immédiat, de se pencher sur le sens de la nomination d'un pape latino-américain et particulièrement argentin quand on sait à quel point l'Argentine a été au cœur de ce qu'on a appelé la fuite des catholiques vers l'Amérique latine. Ce n'est pas seulement les catholiques nazis, c'est une fuite générale et généreuse puisque toutes les branches du christianisme sont représentées, les protestants aussi bien. Et moi, je prétends, je l'ai écrit, que ces 10 ans d'exfiltration ont représenté l'activité essentielle du Vatican de 1945 à 1955. Mmh. Et ça a eu une répercussion directe sur l'histoire de l'Argentine, puisque le remarquable historien journaliste Uki Goni a montré que c'est au cœur de ce qu'on a appelé les pratiques dictatoriales et en particulier l'opération Condor, etc. Mmh. Parce que la fuite a pour objet, comme le dit très bien l'ancien chef militaire croate Draganovic, comme il le dit très bien à Barbie, quand il va l'amener...
Klaus Barbie,
quand il va l'amener à Buenos Aires, où il ne restera pas d'ailleurs, puisqu'il est un des rares qui ne restera pas à Buenos Aires, et que Barbie lui dit, mais finalement, pourquoi vous occupez-vous de nous avec une telle intensité? Il lui répond, vous serez notre réserve. Et Uki Goni fait observer que la réserve, en effet, ce sont les escadrons de la mort et tout ce qui est autour d'ailleurs des polémiques qui ont accompagné l'élection de Francesco Bergoglio, c'est-à-dire du pape François. Et ça, c'est un enjeu qui n'apparaît pas du tout dans les débats évangéliques aujourd'hui sur le Vatican.
Alors, si on va plus loin, François Mabille, et peut-être on revient davantage sur le pape François aujourd'hui, donc un pape argentin, son prédécesseur était allemand, avec tout ce que l'on a dit sur le poids des États-Unis. Le poids et l'influence monétisée finalement aussi des États-Unis sur le Vatican, on peut imaginer un prochain pape nord-américain.
Oui, pourquoi pas, enfin il y a d'autres possibilités. Je pense effectivement qu'il y a eu une géopolitique du Vatican fin 19e siècle et tout au long du 20e siècle avec les événements importants qui ont été la perte des États pontificaux, l'émergence d'un droit international et on oublie très souvent le rôle de la Croix-Rouge qui marginalisait quelque peu celui du Vatican. Et on voit bien qu'à partir de Léon XIII, il y a la volonté de que le Vatican revienne au premier plan de la scène internationale avec les alliances qui ont été évoquées. La question que je me pose, c'est de savoir si aujourd'hui il y a encore une véritable vue géopolitique de la part des décideurs du Vatican. Personnellement, j'aurais tendance à penser que l'un des derniers à avoir eu cette perspective-là a été Jean-Paul II, héritier effectivement de ses prédécesseurs. Je crois que Benoît XVI, qui était peu averti de ces questions, a déjà eu tendance à réduire cette question au précaré européen et allemand, et qu'on a d'une certaine manière une réduction un petit peu identique avec Bergoglio sur l'Amérique latine. Le seul qui a eu une perspective géopolitique ces dernières années, c'est Jean-Louis Torrent. Vous trouverez une note de sa part de 2007 qui évoque le rapport entre l'Église catholique et les États. où il dit que d'une certaine manière elle se prononce pour une politique néo-concordataire et que c'est l'intérêt des États de collaborer avec les Églises. Un point qui est tout de même important par rapport à ce que disait Mme Lacroix-Rise, 2003, la Curie romaine s'est opposée à la politique des États-Unis en Irak. N'oubliez pas que à cette époque-là, vous avez trois cardinaux qui jouent un rôle important, Torrent que je viens d'évoquer, Poupard qui est au dicaster au Conseil pontifical pour la culture et Tchegaray au Conseil pontifical justice et paix. Il me semble que ce n'est pas un hasard si les trois disparaissent progressivement au moment où Benoît XVI prend ses fonctions. Et où il y a, me semble-t-il, effectivement une façon indirecte de revenir sur cette opposition de la Curie romaine aux États-Unis.
Jean-Baptiste Noé.
Oui, alors pour aller dans le sens de François Mabille et pour compléter un peu, j'ai pu poser la question à plusieurs membres de la Curie. Aujourd'hui, la véritable réflexion géopolitique du Saint-Siège, elle porte sur la question de la diffusion des idées et notamment d'une idée qui leur paraît essentielle, qui est celle du relativisme. C'est un élément que le pape Benoît XVI a repris abondamment. Il parle de la dictature du relativisme. Mm-hmm. Le pape François l'a repris aussi. Et dans le relativisme, il y a la question de la famille. Or, pour quelle raison est-ce que le pape François se rend aux États-Unis ce week-end? C'est pour aller à Philadelphie au congrès de la famille. C'est très important puisque vous avez à la fin du mois d'octobre la dernière partie du synode sur la famille qui se déroule à Rome, où vous avez des évêques et des cardinaux du monde entier, il y en a plus de 350 qui vont être à Rome pour définir comment renforcer la famille, la question de l'école, la liberté éducative, qui vont être des points fondamentaux qui sont abordés. Et dans la question de la famille, les États-Unis jouent un rôle important parce que ce sont des questions qui sont très prégnantes, notamment dans les débats politiques. On verra lors des élections présidentielles que la question familiale, la question de la liberté scolaire, la question du droit des parents d'élever leurs enfants sans être soumis aux directives de l'État, sera une question essentielle du débat politique, aussi bien chez les républicains que chez les démocrates. Et donc les évêques américains sont très en pointe sur ces éléments-là. Évidemment, ils vont répercuter cela à Rome lors du synode, mais également les évêques des autres continents, les évêques africains, les évêques asiatiques, qui ont une vision des choses un petit peu différente. Et je terminerai juste sur un point. Cette semaine a été diffusée la liste des membres participants au synode. La liste est diffusée et publiée selon un ordre hiérarchique. Donc, il y a le pape, évidemment, qui est en premier. Ensuite, vous avez les secrétaires. Et puis après, vous avez la liste par continent. Or, ce qui est mis en premier dans cette liste, c'est d'abord les églises orientales, donc les chrétiens d'Orient. Pour bien montrer justement l'importance des chrétiens d'Orient, on ne cesse d'en parler, ils l'ont mis en premier dans la liste des membres participants. Dans les chrétiens d'Orient, vous avez, ce qui est un peu surprenant, des évêques qui ne sont pas a priori orientaux, qui sont les évêques hongrois et slovaques, qui sont rattachés aux chrétiens d'Orient. Après, vous avez la liste des participants européens, et dans les participants européens, vous avez l'archevêque d'Istanbul, donc pour la Turquie, qui est intégrée dans l'Europe. Donc vous voyez que là, la vision géopolitique du Vatican est assez surprenante, et nous montre qu'ils ont une vision du monde qui est vraiment globale, et qui prend en compte les cultures et les intérêts des différents continents.
Alors, vision du monde globale, la question qui se pose quand on voit ce que vous évoquez à l'instant, ce focus placé sur la famille, est-ce qu'il faut entendre au-delà de cela une volonté du Vatican de ne pas prendre position sur les grands sujets internationaux qui fâchent, et Dieu sait que peut-être les États-Unis ont un regard à porter sur leurs agissements, Annie Lacroix-Rise.
De ce point de vue, je nuancerais ce qu'a dit Monsieur Mabille, parce que il a le sentiment que Jean-Paul II clôt une période d'intérêt massif pour la géopolitique et que, au fond, la perspective se resserre avec Benoît XVI. Pas du tout, je ne partage pas cet avis. Benoît XVI s'appelle Benoît XVI à cause de Benoît XV. Et Benoît XV est le pape symbole du choix définitif du Vatican en faveur du Reich, en faveur de l'Allemagne. Et en faveur, et les guerres mondiales ont joué un rôle très très important, en faveur du vaincu, puisque le Vatican a eu à exercer son influence très forte, parce que très utile à certains belligérants, à cet égard. C'est-à-dire que Benoît XV, par sa fameuse prétendue initiative de paix du 1er août 1917, qui n'est pas une initiative de paix, qui est une tentative de sauver les meubles d'une Allemagne en difficulté très grande sur le front occidental, Benoît XV marque le choix décisif en faveur de l'Allemagne, mais d'un choix décisif en faveur de l'Allemagne qui requiert la présence et l'influence américaine, puisque c'est le nonce à Munich, Pacelli, qui fait observer en mars 1918 que, vu la situation d'Allemagne, c'est l'Amérique qui est notre seule planche de salut. On n'est jamais sorti jusqu'à nouvel ordre. Je ne crois pas qu'on soit de ce dispositif. Et ça nous amène d'ailleurs à nuancer ce qui a été dit sur les conflits. Il y a des conflits, car il y a des conflits entre États-Unis et Allemagne très forts. Ils aboutissent même dans les guerres mondiales à ce que les États-Unis ne soient pas du côté de leurs partenaires habituels. Et a été évoquée l'opposition à la politique irakienne des États-Unis. Mais c'est un conflit qui a déjà existé, c'est-à-dire que ça se voit très bien dans d'autres conflits. Le Vatican ayant des alliés, il a des alliés privilégiés et il a des alliés, ma foi, qui sont des alliés de raccro. Je dirais qu'on n'est pas sorti de cette situation et que ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les difficultés auxquelles a été confronté le Vatican, notamment avec les scandales de pédophilie, semblent indiquer, nous n'avons pas les archives, nous ne savons pas, et la presse est très discrète sur ce point, semblent indiquer des conflits entre les États-Unis d'une part et le Vatican, l'Allemagne et le Vatican, les scandales de mœurs ayant été une caractéristique des conflits géopolitiques, comme par exemple en 1936 en Allemagne, lorsque l'Allemagne voulait obtenir du Vatican un soutien ouvert plus marqué et qu'elle a sorti des scandales qui sont exactement les mêmes scandales que ceux d'aujourd'hui.
La question que vous posez là, Annie Lacroix-Riz, mais peut-être ensuite on va avancer dans le débat, c'est pourquoi ces scandales sont apparus aux États-Unis en Allemagne de façon plus prégnante qu'ailleurs.
Exactement.
Parce qu'il y a d'autres pays qui sont concernés en Irlande,
en Belgique. C'est parce que le catholicisme, il y a une assise évidemment très profonde, par exemple pour l'Irlande. Mais il est impossible que ce genre d'explosion de scandale ne soit pas, comme dans l'histoire, lié à d'autres conflits. Et la position prise sur l'Irak le montre. Il y a entre les États-Unis et l'Allemagne de très vifs conflits actuellement. Et par conséquent, le Vatican intervient en l'affaire ou est sollicité en l'affaire par ses pays soutien les plus importants.
Alors, on a parlé de l'Irak et François Mabille, je me tourne vers vous sur la Syrie. Qu'est-ce que l'on sait du rôle du Vatican sur la Syrie? Est-ce qu'il y a en particulier une diplomatie active? Et peut-être que là, il est intéressant de se pencher un tout petit peu sur l'orthodoxie à Moscou. Je veux dire, est-ce que le Vatican est en conflit d'intérêts avec l'Église orthodoxe sur cette question?
Moi, je campe un peu sur mes positions en pensant que aujourd'hui il n'y a pas de véritable perspective géopolitique. J'entends bien effectivement les lignes de continuité sur le XXe siècle, mais je pense que on se focalise trop tout de même sur l'aspect politique, la vision géostratégique, en oubliant que l'Église catholique, ça n'est pas que cela, que c'est une Église catholique qui, hormis même les scandales de pédophilie qu'on a évoqués tout à l'heure, est dans bien des domaines une Église extrêmement affaiblie par la sécularisation, par un pluralisme interne. Personnellement, ce qui me frappe, c'est la difficulté au sein des églises et entre églises à avoir une vue identique sur de très nombreux sujets. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour la France, c'est vrai également pour l'Allemagne, quoi qu'on en dise. Quand on suit les différentes positions de Bergoglio sur les chrétiens du Proche-Orient, il me semble qu'on est plus dans une posture protestataire, tribunicienne, c'est la posture qu'il a adoptée depuis le début de son pontificat, avec des appels à l'aide, des demandes de relais de la part d'État. Pour la France, il me semble que c'est parfaitement inefficace, mais ces appels me semblent précisément manifester que la diplomatie pontificale en tant que telle est beaucoup plus affaiblie et qu'on a peut-être tendance à survaloriser son rôle.
Alors, j'entends de ce que vous venez de dire, François Mabille, et je me tourne vers vous, Jean-Baptiste Noé, que finalement on se trouverait face à une politique du Vatican davantage réactive qu'anticipative.
Alors d'abord, le Vatican n'a pas d'armée, ce ne sont pas les gardes suisses qui vont arrêter Daesh, ils n'ont pas le gold power, mais au niveau du monde oriental, c'est un élément clé pour la diplomatie pontificale. Benoît XVI a réaccordé, retissé les relations avec la Russie. Il y a eu également, sous pontificat de Benoît XVI, des relations diplomatiques qui ont été conclues avec l'Iran, donc bien avant qu'il y ait le rapprochement avec les États-Unis. Et cette semaine, un événement qui est passé un peu inaperçu, mais qui est, je pense, très important, c'est la conclusion de relations fortes entre le Saint-Siège et le Koweït, puisque le ministre des Affaires étrangères du Koweït s'est rendu au Vatican et ils ont signé des accords d'aide culturelle.
Ça, c'est le nouveau focus, pour ainsi dire, du Vatican, développer des relations diplomatiques avec des États avec lesquels il n'avait pas jusqu'à présent de relations.
Oui, complètement. Et puis, ce sont en plus des États musulmans. On peut dire que la ligne de vue est quand même assez différente. Et le Saint-Siège est en train, en fait, de faire une sorte de diplomatie de containment, c'est-à-dire de tisser des relations avec tous les États un peu périphériques de la zone Daesh, État islamique, pour pousser à un peu plus d'intervention militaire côté russe. N'oubliez pas qu'en septembre 2013, par exemple, France et États-Unis étaient prêts à intervenir. Il s'est manqué de peu qu'il y ait l'intervention armée. La Russie était opposée et le Saint-Siège était également opposé. Et il y a eu une entente entre Moscou et Rome pour faire empêcher cette intervention. Avec l'Iran, ils sont à peu près sur la même longueur d'idée. Et puis également la Jordanie, qui a toujours été un allié dans la région. Et les relations sont très bonnes entre ces deux États. Et donc là, on voit que finalement la question musulmane ne compte pas, dans le sens où c'est pas parce qu'ils sont musulmans et donc non catholiques qu'il n'y a pas de relations. Au contraire, elles sont bonnes, elles sont en train de s'intensifier pour essayer de résoudre la crise issue par Daesh et par le mouvement islamique.
Alors, pour terminer, et si on devait se résumer, pas de ligne géopolitique du Vatican, François Mabille l'a dit. Est-ce que c'est un aveu, finalement, d'impuissance face à un monde qui s'est terriblement compliqué, peut-être? Et en tout cas, refuge sur les questions morales, Annie Lacroix-Riis?
Écoutez, moi j'ai été très frappée d'une remarque que vous avez faite sur les rapports avec l'orthodoxie, qui sont une vieille, très vieille question, parce que c'est la question clé des rapports entre le Vatican et son principal allié pendant des siècles, c'est-à-dire la monarchie autrichienne, l'Empire d'Autriche devenu Empire d'Autriche-Hongrie, ces relations conflictuelles entre l'orthodoxie, l'espace russe et l'espace germanique, c'est quelque chose qu'on trouve là encore à travers tout le XXe siècle, sachant que parfois semblent s'établir des contacts, mais qui n'ont jamais été des contacts envisagés que du point de vue de l'avancée dans l'espace russe. Le rôle du Vatican, c'est vrai, est à la fois énorme et secondaire, puisqu'il a fonctionné depuis que le Vatican est en quelque sorte le bras idéologique de grandes puissances. Depuis les débuts, il a fonctionné comme accompagnement et comme reflet des conflits entre les grands alliés. Mais on ne peut pas ignorer que rien ne s'est produit dans les dernières décennies qui change quelque chose à ce rapport conflictuel avec l'orthodoxie, qu'on peut interpréter d'un point de vue idéologique en disant que l'objectif du catholicisme, c'est de se débarrasser du schisme orthodoxe, mais qui va très au-delà, et on revient sur le terrain de la géopolitique, des intérêts matériels, du contrôle des territoires. Et c'est ce contrôle des territoires qui fait problème entre des grands alliés, notamment l'Allemagne et les États-Unis, et qui se reflète plus ou moins, avec des déformations évidemment, dans cette géopolitique du Vatican.
Voilà, une géopolitique qui aurait beaucoup aimé se prolonger, mais le temps qui nous est imparti est ce qu'il est. En tout cas, il y avait bien d'autres sujets, et ce sera probablement l'occasion d'autres émissions. C'est en tout cas donc la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. François Mabille, politologue et enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lille, ainsi qu'au CNRS, et auteur de plusieurs ouvrages dont Les troupes du Vatican aux éditions Le Manuscrit et La longue transition du catholicisme aux éditions du Cygne. Annie Lacroix-Riis, historienne, également auteur de plusieurs ouvrages dont Le Vatican, l'Europe et le Reich de la Première Guerre mondiale à la Guerre froide aux éditions Armand Collin. Et Jean-Baptiste Noé, historien et écrivain, auteur de Géopolitique du Vatican, à paraître aux presses universitaires de France le 14 octobre prochain. Pour aller plus loin, je signale également deux éditions de la revue Diplomatie consacrées à la géopolitique du Vatican et aux religions. Vous pouvez retrouver l'émission Géopolitique sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Également sur Facebook, Géopolitique Le Débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand, Pierre Chaffangeon et Julien Magoarou. À samedi prochain.